La femme marchait inlassablement, enlevant, remettant des épingles dans sa bouche, chantant et se taisant, accrochant du linge encore et encore. Il se demandait si elle faisait la lessive pour vivre, ou si elle était simplement l'esclave de 20 ou 30 petits-enfants. Julia se tenait à ses côtés et ensemble ils regardaient avec une sorte de fascination la solide silhouette qui se trouvait en bas. Alors qu'il regardait la femme dans son attitude caractéristique, ses bras épais s'étendant vers le haut pour atteindre la corde à linge, ses fesses puissantes comme celles d'une jument, il lui apparut pour la première fois qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que le corps d'une femme de 50 ans, bouffi aux dimensions monstrueuses par la grossesse, puis durci, rendu rugueux par le travail jusqu'à devenir grossier dans le grain comme un navet trop mûr, pouvait être beau. Mais il en était ainsi. Et après tout, se dit-il, pourquoi pas? Le corps solide et sans contour, comme un bloc de granit, et la peau rouge râpeuse, avaient la même relation avec le corps d'une fille que l'églantier à la rose. Pourquoi le fruit doit-il être tenu en dessous de la fleur? Elle est belle, murmura-t-il. Elle fait 1 mètre de large, facilement, dit Julia. C'est son style de beauté, déclara Winston. Il entourait facilement de son bras la souple taille de Julia. De la hanche au genou, son flanc était contre le sien. Aucun enfant ne naîtrait de ces deux corps. C'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais faire. Ce n'est que par le bouche à oreille, d'esprit à esprit, qu'il pourrait transmettre le secret. La femme d'en bas n'avait pas d'esprit. Elle n'avait que des bras forts, un cœur chaud et un ventre fertile. Il se demandait à combien d'enfants elle avait donné naissance. Il pourrait facilement y en avoir 15. Elle avait eu sa floraison momentanée, 1 an peut-être, de beauté sauvage. Puis elle avait soudainement enflé comme un fruit fécondé et avait grandi en dur, en rouge et en grossier. Puis sa vie avait été de laver, de frotter, de repriser, de cuisiner, de balayer, de polir, de raccommoder, de frotter, de blanchir, d'abord pour les enfants, puis pour les petits-enfants pendant 30 années ininterrompues. À la fin, elle chantait toujours. La vénération mystique qu'il ressentait pour elle se confondait en quelque sorte avec l'aspect du ciel pâle et sans nuages qui s'étendait derrière les cheminées, dans une distance interminable. Il était curieux de penser que le ciel était le même pour tout le monde, en Eurasia ou en Estasia, comme ici. Et les gens qui vivaient sous le ciel étaient tous semblables. Partout dans le monde, des centaines de milliers de millions de personnes comme celle-ci, des gens ignorant l'existence des autres, séparés par des murs de haine et de mensonges, et pourtant presque exactement les mêmes, des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui avaient accumulé dans leur cœur, leur ventre et leurs muscles, la puissance qui, un jour, bouleverserait le monde. S'il y avait de l'espoir, c'était dans les prolétaires. Sans avoir lu jusqu'à la fin le livre, il savait que cela devait être le dernier message de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires, mais pouvait-on être certain que le monde qu'ils construiraient, quand leur heure viendrait, ne serait pas aussi étranger à lui, Winston Smith, que le monde du parti? Oui, parce qu'au moins, ce serait un monde de santé mentale. Là où il y a de l'égalité, il peut y avoir de la santé mentale. Tôt ou tard, cela arriverait. La force se transformerait en conscience. Les prolétaires étaient immortels. Vous ne pouviez pas en douter quand vous regardiez ce vaillant personnage dans la cour. À la fin, le réveil viendrait. Et jusqu'à ce que cela se produise, bien que cela pourrait être dans 2000 ans, il resterait vivant, malgré les intempéries, comme des oiseaux, transmettant d'un corps à l'autre la vitalité que le parti ne pouvait partager et ne pouvait tuer. Te souviens-tu, demanda-t-il. De la grive qui chantait pour nous le premier jour, à la lisière du bois. Elle ne chantait pas pour nous, dit Julia. Elle chantait pour se faire plaisir. Même pas ça. Elle ne faisait que chanter. Les oiseaux chantaient. Les prolétaires chantaient. Le parti ne chantait pas. Partout dans le monde, à Londres et à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les mystérieuses terres interdites au-delà des frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de l'interminable plaine russe, dans les bazars de Chine et du Japon, partout se dressait la même silhouette solide et invincible figure, rendue monstrueuse par le travail et la procréation, le labeur de la naissance à la mort, et qui chante encore. De ses reins puissants, une race d'êtres conscients devait un jour sortir. Nous sommes les morts, vous êtes l'avenir. Mais on pouvait partager ce futur en gardant l'esprit vivant, comme il gardait le corps, et en transmettant la doctrine secrète que 2 et 2 font 4. Nous sommes les morts, a-t-il dit. Nous sommes les morts, fit écho Julia. Vous êtes les morts, dit une voix de fer derrière eux. Ils se séparèrent. Les entrailles de Winston semblaient avoir été transformées en glace. Il pouvait voir le blanc tout autour des iris dans les yeux de Julia. Son visage était devenu jaune laiteux. La tache rouge qui se trouvait encore sur chaque pommette ressortait nettement, presque comme si elle n'était pas en contact avec la peau du dessous. « Vous êtes les morts !» répétait la voix de fer.
« C'est derrière le tableau !» souffla Julia.
« C'est derrière le tableau !» dit la voix. « Restez exactement où vous êtes, ne bougez pas tant que vous n'en avez pas reçu l'ordre !»
Ça commençait. Ça commençait enfin. Il ne pouvait rien faire d'autre que de rester debout à se regarder dans les yeux.
Courir pour se sauver la vie, sortir de la maison avant qu'il ne soit trop tard, ne leur est pas venu à l'esprit. Impensable de désobéir à la voix de fer sortie du mur. Il y eut un claquement comme si un loquet avait été tourné et un bruit de verre cassé. Le tableau était tombé sur le parquet, découvrant le télécran.
Maintenant, ils peuvent nous voir, déclara Julia.
Maintenant, nous pouvons vous voir, dit la voix. Debout au milieu de la chambre, dos à dos, les mains croisées derrière la tête, sans vous toucher.
Il ne se touchait pas, mais il lui semblait qu'il pouvait sentir le corps de Julia trembler. Ou peut-être était-ce simplement son propre tremblement. Il pouvait juste empêcher ses dents de claquer, mais ses genoux étaient hors de contrôle. Il y avait, en bas, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, un bruit de bottes. La cour paraissait pleine d'hommes. Le chant de la femme s'est arrêté brusquement. Il y eut un long bruit de roulement comme si le baquet avait été jeté dans la cour. Puis une confusion de cris de colère qui se sont terminés par un cri de douleur. « La maison est encerclée, » a déclaré Winston. « La maison est encerclée, » dit la voix. Il entendit Julia serrer les dents.
« Je suppose que nous ferions aussi bien de nous dire adieu, » dit-elle.
« Vous feriez aussi bien de vous dire adieu, » dit la voix. Et puis une autre voix, bien différente, une voix fine et cultivée que Winston avait l'impression d'avoir déjà entendue. Et à propos, pendant que nous en sommes à ce sujet, voici une chandelle pour aller vous coucher, voici une machette pour vous couper la tête. Quelque chose s'écrasa sur le lit derrière Winston. Le haut d'une échelle avait été poussé à travers la fenêtre et avait brisé le cadre. Quelqu'un était en train de grimper à travers la fenêtre. Il y eut une ruée de bottes en haut des escaliers. La salle était pleine d'hommes en uniforme noir avec des bottes de fer aux pieds et des matraques à la main. Winston ne tremblait plus. Même ses yeux bougeaient à peine. Une seule chose comptait. Restez immobile. Restez immobile et ne pas leur donner d'excuses pour vous frapper. Un homme à la bajoue lisse de boxeur, dont la bouche n'était qu'une fente, s'arrêta en face de lui, balançant sa matraque pensivement entre le pouce et l'index. Winston croisa ses yeux. La sensation de nudité avec les mains derrière la tête et le visage et le corps tout exposé était presque insupportable. L'homme sortit un bout de langue blanche, lécha l'endroit où auraient dû se trouver ses lèvres, puis passa. Il y eut un autre fracas. Quelqu'un avait ramassé le presse-papier en verre de la table et l'avait brisé en morceaux sur la pierre du foyer. Le fragment de corail, un petit pli rose comme un bouton de rose en sucre provenant d'un gâteau, roulé sur la natte. « Comme c'est petit !» se dit Winston. « Comme il a toujours été petit !» Il y eut un halètement et le bruit d'un coup derrière lui, et il reçut sur la jambe un violent coup de pied qui lui fit presque perdre l'équilibre. Un des hommes avait lancé à Julia un coup de poing en plein plexus solaire qu'il avait fait se plier en deux comme une règle de poche. Elle se débattait sur le sol à la recherche de son souffle. Winston n'osa pas tourner la tête, même d'un millimètre, mais parfois le visage livide et haletant entrait dans son champ de vision. Même dans sa terreur, c'était comme s'il pouvait ressentir la douleur dans son propre corps, la douleur qui était pourtant moins urgente que la lutte pour récupérer son souffle. Il savait ce que c'était, une terrible douleur, atroce, qui était là, tout le temps, mais qui ne pouvait être subie encore, car il fallait avant tout être capable de respirer. Ensuite, deux des hommes l'ont porté par les genoux et les épaules, et l'ont sorti de la pièce comme un sac. Winston aperçut son visage, à l'envers, jaune et contorsionné, les yeux fermés, et toujours avec une tache de rouge sur les deux joues. Et c'est la dernière fois qu'il la vit. Il resta immobile. Personne ne l'avait encore frappé. Des réflexions venant de leur propre chef et qui semblaient totalement sans intérêt lui traversèrent l'esprit. Il se demandait s'ils avaient pris M. Charrington. Il se demandait ce qu'ils avaient fait à la femme dans la cour. Il remarqua qu'il avait très envie d'uriner et s'en étonna, car il n'y avait que 2 ou 3 heures qu'il avait uriné. Il remarqua que l'horloge de la cheminée indiquait 9 heures, c'est-à-dire 21 heures. Mais la lumière semblait trop forte. Le soleil ne serait-il pas davantage couché à 21 heures, un soir d'août? Il se demanda si, après tout, Julia et lui ne s'étaient pas trompés d'heure. S'il n'avait pas dormi pendant que l'aiguille faisait le tour du cadran et pensait qu'il était 23 heures alors qu'en réalité, on était au lendemain matin 9 heures. Mais il ne poursuivit pas sa réflexion plus avant. Ce n'était pas intéressant. Il y eut d'autres pas, plus légers, sur le palier. M. Charrington entra dans la pièce. L'attitude des hommes en uniforme noir est soudainement devenue plus modérée. Quelque chose avait également changé dans l'apparence de M. Charrington. Son œil tomba sur les fragments du presse-papier en verre. « Ramassez ces morceaux !» dit-il avec force. Un homme se pencha pour obéir. L'accent cockney avait disparu. Winston réalisa soudain à qui était cette voix qu'il avait entendue il y a quelques instants sur le télécran. M. Charrington portait toujours sa vieille veste en velours. Mais ses cheveux, qui étaient presque blancs, étaient devenus noirs. Il ne portait pas non plus ses lunettes. Il donna à Winston un seul coup d'œil, comme s'il avait vérifié son identité, puis il ne fit plus attention à lui. Il était encore reconnaissable, mais il n'était plus la même personne. Son corps s'était redressé et semblait avoir grandi. Son visage avait subi seulement de minuscules changements qu'il avait néanmoins transformés. Les sourcils noirs étaient moins touffus, les rides avaient disparu, toutes les lignes du visage semblaient avoir changé. Même le nez semblait plus court. C'était le visage froid et vigilant d'un homme d'environ 35 ans. Winston réalisa que pour la première fois de sa vie, il regardait, en connaissance de cause, un membre de la police de la pensée.